c'est clé dans l'élément de motivation. On vit très bien un changement, comme vous le disiez, lorsqu'on le comprend, les fondements de ce changement. Ce n'est pas le changement qui fait peur, c'est l'inconnu qui fait peur.
J'ai une question qui est peut-être provocatrice pour tous les deux, mais est-ce que quand on a la taille d'un groupe LAFA, la taille d'un Staria aujourd'hui, est-ce que les dirigeants que vous êtes arrivent finalement à avoir le retour de ce qui se passe sur le terrain avec, on le sait bien, entre les cadres moyens, les cadres supérieurs et certaines têtes? On ne va pas vouloir vous dire quand ça va mal, on ne va pas venir vers vous en disant « Oh là là, on a un vrai problème dans cette filiale. » Est-ce que vous arrivez à encore percevoir quelque part? Est-ce que c'est un moment où vous vous dites « Il y a peut-être une part où je n'ai pas toutes les informations. »
Non, mais s'ils ne l'ont pas, c'est que ce sont des mauvais dirigeants, parce que c'est la responsabilité, une des responsabilités essentielles d'un dirigeant, c'est de savoir ce qui se passe dans son entreprise. Et vous avez raison, ce n'est pas facile. Ça veut dire que si on n'y prête pas attention, on peut être entouré d'une cour de gens qui vous disent ce que vous avez envie d'entendre, etc. Donc c'est un des problèmes très importants. C'est par exemple le développement des filières ressources humaines est une des choses importantes dans ce domaine-là, parce que c'est des gens qui ne sont pas de la ligne hiérarchique, qui peuvent vous remonter un petit peu le climat, les gens de la communication interne aussi, c'est très important. Et puis, le chef d'entreprise, il doit être sur le terrain. Moi, je sais que j'avais effectivement certains collègues, pas forcément français d'ailleurs, qui considéraient que leur entreprise était tellement grande que de toute façon, ils ne pouvaient plus tout voir, donc ils pouvaient rester dans leur bureau. Ma conception, et je sais que c'est là aussi la conception de mon successeur, c'est au contraire. Ça veut dire qu'on y passe plus de temps, mais on va partout sur le terrain pour être, pour savoir ce qui se passe, pour voir les gens, pour que l'entreprise ne soit pas quelque chose de complètement abstrait, dématérialisé. Comme on le disait, s'il n'y a pas que la solidarité financière, ce qui motive les gens, c'est le sentiment de participer à une œuvre commune, à quelque chose. Oui, donc de comprendre, comprendre ce qu'on fait est absolument essentiel. Et pour comprendre, il faut expliquer, et on n'explique pas que par des communiqués de la direction de la communication. On explique en voyant les gens, en ayant des réunions, etc., en faisant des vidéos. Et ça, c'est très important dans l'entreprise. Et ce problème est absolument essentiel. Toute entreprise où les gens apprennent par la presse ce qui leur arrive, est une entreprise condamnée.
– Surtout là, ça c'est très rapide. Pour les sociétés cotées, en plus, on pourrait dire, c'est encore…
– Vous ne ferez jamais rêver des collaborateurs uniquement en communiquant par vos résultats financiers, y compris que ce soit en externe ou en interne, mais ça ne fera jamais rêver des collaborateurs. Ce n'est pas ça qui va développer un sentiment d'appartenance à l'entreprise plus fort. Vous les ferez rêver par rapport lorsqu'ils se projetteront dans les succès commerciaux que nous pouvons avoir, dans les produits que nous développons, les services que nous développons. C'est cette identification à ces produits, ces services, ces succès qui font la fierté de ceux qui y contribuent. Ensuite, bien sûr, il y a une dimension qui est nouvelle, mais qui est forte et qui est un élément également de fierté et de motivation, c'est toutes les questions qui touchent à la responsabilité sociale de l'entreprise. Parce qu'on disait, on a commencé le débat en parlant de la société, la perception de la mondialisation, maintenant on parle évidemment de comment on le vit dans l'entreprise. Mais tout ça quand même, c'est pas des mondes disjoints, l'entreprise est dans une société, la société vit des entreprises, qui créent l'emploi. Donc finalement, et fort heureusement, de plus en plus, on comprend qu'il y a des ponts entre la société et l'entreprise, et c'est ce qu'on appelle un peu globalement la responsabilité sociale. Donc je pense que là aussi, ça donne un sens au travail de chacun de dire, mais finalement, dans mon travail en tant qu'employé, je peux aussi collectivement, dans un projet collectif, participer à un mieux vivre ensemble dans la société. Et je pense que ça aussi, c'est des éléments de motivation. Et je pense que ça fait plaisir à voir que les entreprises ne font plus de la responsabilité sociale seulement un élément marketing, d'image, mais vraiment un élément moteur de motivation dans l'entreprise.
François Martin, comment on installe cette combinaison argent, motivation, justement? Est-ce qu'il y a une combinaison idéale?
D'abord, je pensais à une chose en vous écoutant, François Hainaut, c'est une phrase de Guy Dollet que j'avais entendue, où il disait, dans l'entreprise, il faut partager le problème, mais pas les solutions, parce que sinon, c'est la solution qui devient le problème. C'est un peu l'idée comme quoi il faut aussi si on veut que les personnes de l'entreprise, pas seulement je dirais les personnes, mais l'ensemble des stakeholders, parce que c'est vrai aussi qu'il y a une espèce d'appropriation, cette nature qui est très importante, encore faut-il que les personnes aient le sentiment eux-mêmes que c'est à eux. Alors, une des choses, c'est ça. Une autre, c'est l'expérience de Bertrand Martin chez Sulzer que vous connaissez, où il est arrivé dans une entreprise en faillite en disant « Moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire. » Les gens lui disent « Attendez, vous êtes le patron. » Il leur a répondu « Si vous qui êtes là dans l'entreprise depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous n'avez aucune idée sur ce qu'il faut faire, comment est-ce que voulez-vous que moi, je la sauve ?» Donc, le processus de réappropriation a commencé à ce moment-là, avec les résultats qu'on sait, une entreprise qui a multiplié son chiffre d'affaires par 10 en 10 ans. Et puis l'autre, c'est, je pense, à un paragraphe du livre de Xavier Fontanet, « Si on faisait confiance aux entrepreneurs », où il raconte que quand ils sont allés en Chine, en Inde, et qu'ils ont racheté un certain nombre de sociétés en Inde, ils ont annoncé au personnel que le personnel faisait partie du capital. Et les gens leur ont fait une standing ovation pendant 10 minutes. Et après, ils sont allés dans les bureaux le lendemain avec une caméra, parce qu'ils ne sont pas idiots. Et les gens leur ont dit avec un grand sourire, maintenant, on est chez nous. L'entreprise est à nous. Alors, quand vous avez atteint ça, le personnel dit l'entreprise est à nous, là vous avez gagné, parce que là vous avez qu'à mettre, je dirais, la clé, et puis la créativité dont vous parlez, elle est là, les gisements de motivation sont là, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça.
Comment justement on va pouvoir, parce qu'on sent bien quand même qu'on a ce contexte, cette pression forte, hein, alors crack boursier, question sur les dettes souveraines, on se dit que les entreprises ont retrouvé effectivement une santé, on a parlé de cette crise 2009-2010, même si il y a une certaine fragilité, comment, peut-être pas remotiver, mais comment retrouver de la motivation? C'est-à-dire, on a l'impression que notre environnement tout de même va rester fragile, l'environnement économique, on a clairement, hein, on n'a pas tous les jours des bonnes nouvelles macroéconomiques, donc je dirais que chaque salarié qui regarde l'actualité, il a un peu de mal à trouver quelque part une motivation.
– Non mais le monde de l'entreprise et le monde financier sont deux mondes différents. Et depuis le début de cette crise, la difficulté, c'est de savoir quel impact la crise financière aura sur l'économie réelle, l'économie physique, le monde de l'entreprise. Alors, on a eu la première phase avec 2008. Bon, il y a eu un impact massif, mais enfin, une récession forte dans les pays industrialisés. Heureusement, avec une poursuite de croissance dans les autres pays qui fait qu'on était en train d'en ressortir. Et là maintenant, on a une nouvelle crise de folie des marchés financiers. Les marchés financiers mondialisés, c'est forcément des facteurs d'exagération des évolutions quand il n'y a aucun frein. Les grandes vagues et les tempêtes sont plus grandes dans les océans que dans les petits lacs. Donc on a malheureusement une finance mondiale qui a des convulsions trop fortes. Alors, il y a toujours des raisons. Oui. Bien entendu, ce n'est pas par hasard. Si les États sont trop endettés, c'est pas à cause des financiers. Mais les États sont trop endettés depuis longtemps. La dette américaine, c'est un phénomène qui remonte à très loin. Et elle ne posait aucun problème jusqu'au jour où brusquement elle en pose. Parce que la dette, c'est la confiance, et la confiance, c'est quelque chose de bon. Alors, on assiste à ces choses incroyables. Les États-Unis sont dégradés, et le lendemain, le coût de la dette américaine baisse. Bon, ça, les entreprises industrielles, face à ce genre de choses, elles ne peuvent rien faire. Elles sont. Alors malheureusement, on ne parle que ça dans les journaux, à juste titre, ou dans parce que c'est l'actualité. Alors nous, je crois qu'il faut garder le cap.
– Est-ce que vous diriez qu'il faudrait, en tant que chef d'entreprise et société cotée, qu'il faudrait plus de régulation sur la partie financière ?–
Il est clair qu'il
y en a beaucoup qui disent qu'il n'y a pas eu finalement assez de régulation début de la crise et aujourd'hui. On a été plutôt dans une période de dérégulation.
– Depuis les années 80 et quelques, 85, car encore une fois, ça vient de loin. Oui. Il y a eu une doctrine américaine que les marchés étaient capables de se réguler tout seuls, c'était la doctrine Greenspan, etc. Ça a produit les conséquences qu'on connaît avec les subprimes 2008, etc. Et malheureusement, il n'y a pas eu grand-chose de fait pour changer le système. Alors, le G20 a listé un certain nombre de choses. Les Américains ont fait Frank Dodd, la législation qui a introduit un certain nombre de contrainte et de régulation. Mais cette législation même met beaucoup de temps à se développer, car il y a des autorités indépendantes qui doivent faire les règlements. L'Europe, Michel Barnier est en train d'essayer péniblement de faire des... Mais là aussi, ça prend du temps. Il y a des intérêts divergents, car clairement, la City de Londres n'est pas dans la même position que l'Europe continentale.
– Je connais des hedge funds qui passent par Londres quand on leur dit de ne pas vendre à découvert des titres. –
Globalement, je veux dire, quand j'écrivais mon livre il y a un an et demi, j'espérais qu'on trouverait un équilibre. On n'a pas trouvé l'équilibre pour l'instant. Alors, évidemment, les États sont très malvenus maintenant de vouloir punir les marchés financiers ou les agences de rating quand c'est eux qui sont mis en cause.
Oui.
Alors autrefois, l'État français obligeait tous les épargnants à acheter des bons du Trésor. Alors c'était bien agréable, mais c'était pas un système très efficace. Dieu merci, on va pas y revenir. Alors, il faut qu'on trouve un système, mais clairement une plus grande régulation. En fait, en gros, on retrouve d'ailleurs l'histoire de rémunération. Quand la finance gagne trop d'argent, c'est pas sain. Hein? Par rapport au reste de l'économie. Ça veut dire quand on gagne plus d'argent à faire des transactions astucieuses de hedge fund qu'à lancer une entreprise et la développer sur 10 ans, c'est pas sain. Donc il faut rééquilibrer les choses, mais c'est pas commode à faire.
François Hainaut, parce que les marchés, vous êtes confrontés aussi au jour le jour à ces marchés.
Je pense que la question de la régulation est une question qui éclate en plein jour. Je pense que les solutions ne sont pas simples, mais le problème, en tout cas, il est clair. Quoi. Tant qu'on aura un décalage énorme entre les marchés financiers et la réalité de la valeur des entreprises, c'est-à-dire qu'il y aura quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a des règles du jeu à changer et à faire évoluer. Donc ça, je pense que ce qu'on attend des marchés financiers, c'est de refléter une valeur objective des entreprises. Et ça, c'est clairement pas l'état du moment. Donc je pense qu'il faut, d'où l'importance du point évoqué déjà tout à l'heure, hein, savoir qu'il faut distinguer au sein même de l'entreprise l'impact financier de ces crises et réellement la qualité de ce qu'on y fait, parce que je pense que le collaborateur va mieux se projeter sur ce que produit l'entreprise que ce qu'on veut bien lui donner comme valeur. Néanmoins, on est dans un environnement qui est comme celui-là. Les entreprises, vous avez raison, elles ne sont pas dans un autre univers. On est malheureusement dans le même univers, donc on n'est pas étanche. On subit ces crises et on doit s'y adapter.
Est-ce que vous pouvez tenir ? Parce qu'une des questions peut-être majeures de cette dernière crise, c'est de dire, si vous écoutez un des anciens dirigeants de JP Morgan qui a expliqué à sa fille ce que c'était qu'une crise, il a dit c'est quelque chose, ça arrive tous les 5 ans. Si les crises arrivent tous les 5 ans, est-ce que les entreprises vont pouvoir tous les 5 ans, vous parliez de chute de vente hein, importante, chute de production, est-ce qu'on peut subir autant si on ne fait rien ?
Si vous me permettez, je crois qu'il faut... On parlait tout à l'heure de l'accélération du changement. Hein, et on est dans un monde mondialisé, donc ça veut dire que dans un monde où finalement l'imprévu... fait partie maintenant du... Et il a toujours... Enfin, c'est l'entreprise doit vivre avec un certain nombre de... ce risque de phénomènes qui est difficilement prédictible. Et à partir de là, je pense qu'on doit adapter nos stratégies et nos modes de management à un jeu qui est plus ouvert, avec une volatilité plus forte sur les marchés, pas forcément financiers, également sur les marchés en termes de demande. Et je pense que ça oblige à repenser peut-être les stratégies un peu différemment. Personnellement, je pense que ça, première décision, en tout cas première conséquence, ce serait que les entreprises, je pense, ont plus à gagner à se concentrer sur leurs points forts qu'à chercher à se disperser, à couvrir toujours. On a souvent fait des courses à la taille, je pense qu'il faut faire plus de courses à la valeur, et donc je pense qu'on sera beaucoup plus résistant si on se concentre sur ses points forts. Et je pense que, et là on voit, on commence à le voir un peu, mais je pense qu'il est important d'infléchir un peu les stratégies d'entreprise pour aller vers plutôt, surtout dans nos pays où là on est moins tiré par la croissance, de se repositionner, se reconcentrer sur ses points forts. Ça, deuxième conséquence, je pense, c'est aussi dans le choix des hommes. On parlait des dirigeants, moi je pense qu'il faut aussi adapter les dirigeants à cette réalité du monde qui change vite, et donc des dirigeants plus réactifs, plus créatifs, ça c'est important. Évidemment, c'est pas tout à fait, on n'a pas besoin que des fermiers, il ne faut pas des fermiers partout, on n'est plus dans le même monde. Ensuite, je pense qu'il faut, on parlait aussi d'organisation, on parlait de communication au sein d'entreprise, je pense qu'il faut des organisations de plus en plus plates. Je pense que les modèles en hiérarchique, strictement hiérarchique, pyramidaux, ne sont plus les bons. Et donc il faut repenser des organisations avec des circuits de décision plus courts, avec des possibilités de remontée d'informations bien sûr beaucoup plus rapides. Voilà, c'est un peu, bien sûr ça a des conséquences tout ça, et ça a des conséquences qui se traduisent aussi en décisions concrètes ou en stratégiques et d'exécution. Les entreprises.
Un des paradoxes peut-être de la situation actuelle, si on prend dans les services informatiques, on sait qu'il y a de la demande, que vous recrutez, que vous cherchez des compétences. Il n'y en a pas forcément, il y a une vraie tension sur les compétences en France. Il y a besoin d'ingénieurs, il y a besoin de...
Oui, il y a plein de paradoxes dans cette crise et dans l'économie dans laquelle nous nous trouvons en ce moment. C'est-à-dire qu'on a effectivement des prix qui sont sous forte pression parce qu'on voit bien que la demande est moins forte et que le consommateur, on voit bien qu'il y a tout ce qu'on vit, l'endettement, la crise des marchés financiers, c'est un impact sur le pouvoir d'achat, donc un impact finalement sur les prix des produits et des services que développent les entreprises. Et en même temps, on a des coûts qui ne baissent pas, qui montent même, parce qu'on a des coûts de matières premières qui montent, on a des coûts de main-d'œuvre qui montent parce qu'on est dans des économies où effectivement l'ingénieur formé, etc., coûte cher et on n'en a pas assez par rapport aux besoins. Donc effectivement, on a à manier ces paradoxes où on a effectivement une demande qui se tient pas mal, puisque l'économie globale est plutôt bonne,
mais
des prix qui n'évoluent pas en autant qu'on aimerait, puisque dans une économie où il y a de la croissance, on devrait avoir des prix qui devraient également croître et qui ne croissent pas autant que les coûts augmentent. Donc effectivement, ça appelle à beaucoup, beaucoup de créativité en matière de productivité.
On va arriver à la fin de notre émission. Peut-être un mot de conclusion. Je ne sais pas si vous vouliez répondre à la question sur... Parce que c'est aussi le débat des marchés, de déflation ou d'inflation. Il y a des investisseurs qui disent on va être dans un scénario à la japonaise, une Europe qui pendant 10 ans n'aura pas de croissance. Mais d'autres vous disent attention au retour de l'inflation. Et l'inflation, on sait que pour les ménages, on sait ce que ça peut donner derrière, pour les entreprises aussi. Est-ce qu'il y a un mot de conclusion là-dessus?
Oui, On pouvait effectivement penser qu'il y aurait de l'inflation parce qu'il y avait beaucoup de création monétaire et que les banques finalement ont résolu les problèmes à court terme en émettant de la monnaie. Mais finalement l'inflation... Et par ailleurs, il y a une demande forte sur certains produits, sur les matières premières. Moi, je ne suis pas, trop préoccupé par la déflation parce que, par contre, je suis préoccupé par l'idée de stagflation, c'est-à-dire... qu'on n'ait pas suffisamment de croissance. Et je crois que la seule façon d'avoir de la croissance, c'est d'être capable de s'adapter au changement des circonstances, c'est-à-dire d'avoir une réactivité. Et ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'on ne trouve pas de scientifiques suffisamment formés, bon, ça dépend de nous. Il y a une désaffection pour les études scientifiques, parce qu'il faut faire ce qu'il faut pour que un plus grand nombre de nos jeunes s'orientent vers les études scientifiques, en changeant la façon dont on enseigne, en changeant les incitations. Pourquoi ça existe, ça? Parce que dans l'imaginaire collectif, on a pensé que c'était beaucoup mieux d'être banquier que d'être ingénieur. Ça, il faut que ça revienne, il faut qu'on arrive à rééquilibrer tout ça. Donc il y a des capacités de s'adapter. Le monde va changer tout le temps. J'espère qu'on ne va pas vivre dans un monde où on a une crise type 2009 tous les 5 ans, parce que ça, c'est quand même, ça serait la faillite de l'économie libérale. Bon, par contre, il n'y aura jamais d'économie stable. On va toujours être en mouvement. Et l'entreprise et les politiques et les sociétés doivent s'adapter à ça. Alors la société française a beaucoup de mal à s'adapter à un changement rapide et à voir le changement comme une opportunité. Nous voyons trop souvent le changement comme une menace. Je pense que ça vient... C'est pas consubstantiel à la culture française, parce que la culture française est une culture qui a une certaine audace, un certain sens de l'entreprise, etc. Mais ça date de 1975, c'est depuis le choc pétrolier. Nous avons mal réagi, nous avons traîné un chômage pendant 20 ans. Donc, dans l'esprit français actuel, tout changement veut dire menace, veut dire chômage. Et on voit ça tout de suite, dès que le chômage remonte un tout petit peu, Une catastrophe, on a l'impression. Donc il faut qu'on s'habitue à l'idée qu'on peut s'adapter au changement et que le changement soit aussi une opportunité.
Un mot rapide, il nous reste quelques secondes, mais juste le mot de conclusion.
Non, je crois qu'effectivement, on a bien évoqué la question du changement d'état d'esprit. On a parlé de révolution culturelle. Je pense qu'il faut oser penser différemment. Et je reviendrai sur la question du pacte social, aussi bien au sein d'un pays. Je pense qu'il faut recréer une confiance par rapport à cette question du changement et la manière dont on pilote le changement et d'expliquer qu'on peut. Il n'y a pas des gagnants et des perdants. Je pense qu'on peut démontrer un jeu où la collectivité peut être dans son ensemble gagnante, comme il en est au sein même de l'entreprise. Je pense que l'entreprise ne peut se développer sainement que si effectivement tous ceux qui y contribuent ont le sentiment d'être dans un jeu gagnant-gagnant.
François Martin, mais moins d'une minute s'il y avait un mot. Mondialisation sans peur, on va pouvoir petit à petit y arriver ?
Moi je reprendrais... Le thème qui est principalement celui développé par Jean-Paul Bettebez aujourd'hui, qui est le préfacier de mon livre par ailleurs, qui dit en fait, en gros, les États ont fait ce qu'ils devaient faire. La régulation, il ne faut pas trop en attendre parce qu'on ne réforme que dans la crise. Dès que la crise est passée, chacun reprend ses billes en fait, et défend ses propres intérêts. Par contre, c'est vraiment au cœur de l'entreprise qu'est la réhabilitation du modèle social. L'entreprise doit s'affirmer plus comme un acteur et comme un communicant. Et c'est autour de l'entreprise et autour du travail qu'on peut réellement trouver ce que l'on veut reconstruire. En fait. Voilà.
Merci. Eh bien, merci à tous d'avoir participé à ce débat économique, donc l'économie en VO.